Chapitre 33. Fin d'après-midi, ciel brumeux, soleil diffus mais pesant et omniprésent, comme une poussière de bronze. Je glisse sur le trottoir avec De Glenn. Notre père est devant nous, une autre paire, et de l'autre côté de la rue, une autre encore. Nous devons faire un joli tableau de loin, pittoresque comme des laitières hollandaises sur une frise de tapisserie, comme une étagère pleine de moulins à sel et poivre de céramique en costume d'époque, comme une flottille de cygnes ou toute autre chose qui se répète avec au moins un minimum de grâce et sans variation. Apaisant pour l'œil, les yeux, car c'est à eux que ce spectacle est destiné. Nous sommes en route pour la festivoraison, pour y témoigner de notre obéissance et de notre piété. Pas un pissenlit en vue ici. Les pelouses sont soigneusement épilées. J'ai la nostalgie d'un pissenlit, un seul, poussé au hasard, dans son insolence d'ordure, difficile à éliminer et perpétuellement jaune, comme le soleil. Gai et plébéien, et brillant pareillement pour tous. Nous en faisions des bagues, et des couronnes, et des colliers, nous tachant les doigts de son lait amer. Ou j'en tenais un sous son menton. Est-ce que tu aimes le beurre ? À les sentir, elle se mettait du pollen sur le nez. Où étaient-ce les boutons d'or ? Ou montaient en graines ? Je la vois, courant à travers la pelouse. Cette pelouse qui est là, juste devant moi, à l'âge de 2-3 ans, brandissant un pissenlit comme une allumette japonaise, petite baguette de feu blanc, et l'air se remplit de minuscules parachutes. Souffle, et tu pourras savoir l'heure. Toutes ces heures envolées dans la brise d'été, c'étaient les marguerites pour lire l'amour, et nous les effeuillions à l'infini. Nous faisons la queue pour être filtrés au poste de contrôle. Nos éternels deux par deux en rang, comme une école privée de filles, qui, sortie en promenade, se serait attardée trop longtemps. Des années de trop. Si bien que tout a grandi démesurément. Jambes, corps, robes, tout. Comment chanter ? Un conte de fées, j'aimerais le croire. Mais au lieu de cela, nous nous faisons contrôler, deux par deux, et continuons à marcher. Au bout d'un moment, nous tournons à droite en direction du Lys et descendons vers la rivière. Je voudrais bien pouvoir aller jusque-là, jusqu'aux larges berges où nous nous étendions au soleil, où les ponts déploient leurs arches. Si l'on descendait la rivière assez loin, en suivant ces méandres sinueux, on arriverait à la mer. Mais que pourrait-on y faire ? Ramasser des coquillages ? Paresser sur les galets gras ? Mais nous n'allons pas à la rivière. Nous ne verrons pas les petites coupoles des bâtiments de ce quartier, blanches, rehaussées de bleu et d'or, si gaies et chastes. Nous nous arrêtons à un édifice plus moderne, dont la porte est drapée d'un gigantesque calicot. Aujourd'hui, festivoraison de femmes. Ce calicot recouvre l'ancien nom de l'édifice, celui de quelques présidents morts qu'ils ont fusillés. Sous les lettres rouges, il y a une inscription en caractères plus petits. Noir, avec le dessin d'un œil ailé de chaque côté. Dieu est une ressource nationale. De part et d'autre de l'entrée se tiennent les inévitables gardiens, deux paires, quatre au total, l'arme au pied, le regard fixé droit en avant. Ils sont presque comme des mannequins de vitrine avec leurs cheveux bien coupés, leurs uniformes repassés et leurs jeunes visages durs comme plâtre. Pas de boutonneux aujourd'hui. Chacun a une mitraillette en bandoulière, prête pour tout acte subversif ou dangereux auquel il croit que nous pourrions nous livrer à l'intérieur. La festivoraison va se tenir dans la cour couverte, où il y a un espace rectangulaire, un plafond vitré. Ce n'est pas une festivoraison pour toute la ville, qui se tiendrait alors sur le terrain de football. Celle-ci n'est que pour notre district. Des rangées de chaises pliantes en bois ont été disposées le long du côté droit, pour les épouses et les filles des hauts fonctionnaires ou des officiers, ce qui ne fait pas tellement de différence. Les galeries du haut, avec leurs balustres de béton, sont pour les femmes des rangs les plus bas, les Martha, les éconofemmes, affublés de leurs rayures multicolores. La présence aux festivoraisons n'est pas obligatoire pour elles, surtout si elles sont de service ou si elles ont des enfants en bas âge. Mais les galeries semblent se remplir quand même. Je pense que c'est une forme de distraction, comme un spectacle ou un cirque. Un certain nombre d'épouses sont déjà assises, vêtues de leur plus beau bleu brodé. Nous sentons leurs regards sur nous tandis que nous marchons, en robe rouge, deux par deux, pour gagner le côté qui leur fait face. Nous sommes regardés, évalués, commentés à voix basse. Nous le sentons, comme de minuscules fourmis à courir sur notre peau nue. Ici, il n'y a pas de chaise. Notre secteur est délimité par une corde, tressée, soyeuse, écarlate, de celle qu'ils utilisaient dans les salles de cinéma pour contenir les spectateurs. Cette corde nous ségrège, nous démarque, évite aux autres d'être contaminés par nous. Nous construit un corral ou un enclos. Alors nous y pénétrons, nous disposons en rang, chose que nous savons très bien faire, puis nous agenouillons sur le sol en ciment. « Vise le fond !» chuchote de Glenn à mon côté. « On pourra mieux parler. » Et quand nous sommes agenouillés, la tête légèrement inclinée, j'entends tout autour de nous un susurrement, comme le bruissement d'insectes dans de l'herbe haute et sèche. Un nuage de murmures. C'est l'un des endroits où nous pouvons échanger des nouvelles plus librement, nous les transmettre de proche en proche. Il leur est difficile de repérer l'une d'entre nous, ou d'entendre ce qui se dit. Et ils ne voudraient pas interrompre la cérémonie, pas devant les caméras de télévision. De Glenn enfonce son coude dans mes côtes pour attirer mon attention, et je lève les yeux, lentement et furtivement. De là où nous sommes agenouillés, nous avons une bonne vue sur l'entrée de la cour où les gens continuent d'affluer. Ce doit être Janine qu'elle voulait que je voie, car la voici, couplée avec une nouvelle femme, pas celle d'avant, quelqu'un que je ne reconnais pas. Janine a donc dû être mutée, à une nouvelle maison, une nouvelle affectation. C'est tôt pour la transférer. Est-ce que quelque chose se serait détraqué pour l'allaitement au sein? Ce serait la seule raison de l'avoir transférée. À moins qu'il n'y ait eu une bagarre à propos du bébé, ce qui arrive plus fréquemment qu'on ne le croit. Une fois qu'il était là, il se peut qu'elle ait fait des difficultés pour y renoncer. Je peux comprendre cela. Le corps sous la robe rouge semble très mince, presque maigre, et elle a perdu cette radiance de la grossesse. Elle a le visage blanc et pincé, comme si elle avait été sucée de son jus. « Il n'était pas bien, tu sais, » dit de Glenn, près du côté de ma tête. « Il était raté, en fin de compte. » Elle veut dire le bébé de Janine. Le bébé qui a transité par Janine en route vers un autre lieu. Le bébé Angela. C'était une erreur de la baptiser trop tôt. Je ressens un malaise au creux de l'estomac. Pas un malaise, un vide. Je ne veux pas savoir ce qui n'allait pas. Mon Dieu, passer par tout cela pour rien. Pire que rien. C'est son second, dit de Glenn. Sans compter le sien avant. Elle a fait une fausse couche à 8 mois. Tu ne le savais pas? Nous observons Janine qui entre dans l'enclos délimité par le cordon, sous son voile d'intouchabilité, de mauvaise chance. Elle me voit. Elle ne peut pas ne pas me voir. Mais son regard me passe à travers le corps. Pas de sourire de triomphe cette fois. Elle se détourne, s'agenouille, et tout ce que j'en aperçois maintenant, c'est un dos et de frêles épaules courbées. « Elle pense que c'est sa faute !» souffle de Glenn. « Deux de suite, pour avoir péché. » Elle s'est servie d'un médecin à ce qu'on dit. Ce n'était pas du tout son commandant. Je ne peux pas dire que je le sais. Sinon, de Glenn va se poser des questions. À sa connaissance, c'est elle, mon unique source pour ce genre d'informations, dont elle possède une quantité étonnante. Comment a-t-elle pu découvrir la chose pour Janine? Les Martha, la compagne de commission de Janine, À écouter aux portes closes, les épouses filaient leur toile autour de leur thé et de leur vin. Est-ce que Serena Joy parlera de moi ainsi si je fais ce qu'elle veut ? Elle a accepté d'emblée. Vraiment, ça lui est égal. N'importe quoi avec deux jambes et un bon vous-savez-quoi fait son affaire. Elles ne sont pas difficiles. Elles n'ont pas les mêmes sentiments que nous. Et toutes les autres, à se pencher en avant sur leur chaise. Grand Dieu ! Pétrie d'horreur et de lubricité. Comment a-t-elle pu ? Où ? Quand ? Comme elles l'ont sans doute fait pour Jeanine. Je dis... C'est terrible. C'est bien Jeanine, pourtant, de prendre tout sur elle, de décider qu'elle seule est responsable des défauts du bébé. Mais les gens feront n'importe quoi plutôt qu'admettre que leur vie n'a pas de sens. C'est-à-dire pas d'utilité, pas d'histoire. Un matin, alors que nous étions en train de nous habiller, j'ai remarqué que Jeanine était encore en chemise de nuit de coton blanc. Elle était juste assise au bord de son lit. J'ai regardé vers les doubles portes du gymnase, là où la tante avait l'habitude de se tenir, pour voir si elle avait remarqué. Mais la tante n'était pas là. Avec le temps, elles avaient davantage confiance en nous. Quelquefois, elles nous laissaient sans surveillance dans la salle de classe, et même à la cafétéria, pendant plusieurs minutes. Probablement s'était-elle éclipsée pour fumer une cigarette ou boire une tasse de café. « Regarde », ai-je dit à Alma, qui occupait le lit voisin du mien. Alma a regardé Jeanine. Puis nous sommes toutes les deux allées vers elle. « Habille-toi, Jeanine », a dit Alma, s'adressant au dos blanc de Jeanine. « Nous ne voulons pas de prière supplémentaire à cause de toi. » Mais Jeanine ne bougeait pas. Entre-temps, Moira nous avait rejointes. C'était avant sa fugue, la seconde. Elle boitait encore, à la suite de ce qu'il lui avait fait au pied. Elle a fait le tour du lit pour voir le visage de Jeanine. « Venez ici !» a-t-elle dit, s'adressant à Alma et à moi. Les autres commençaient à se rassembler aussi. Il y avait une petite foule. « Ne restez pas là !» a dit Moira. « N'en faites pas une affaire si jamais elle entrait !» Je regardais Jeanine. Elle avait les yeux ouverts, mais ils ne me voyaient pas du tout. Ils étaient arrondis, immenses, et elle avait les dents découvertes en un sourire figé. À travers ce sourire, à travers ses dents, elle murmurait pour elle-même. J'ai dû me pencher près d'elle. « Bonjour, » disait-elle, mais pas à moi.
« Je m'appelle Jeanine. C'est moi qui vais vous servir ce matin. Voulez-vous que je vous apporte du café pour commencer ?»«
Nom de Dieu !» a dit Moira à côté de moi. « Ne jure pas !» a dit Alma. Moira a pris Jeanine par les épaules et l'a secouée. « Arrête cette comédie, Jeanine » a-t-elle dit brutalement. « Et ne prononce pas ce mot !» Jeanine a souri. Elle a dit
« Je vous souhaite une bonne journée. »
Moira l'a giflée au visage, deux fois, un aller-retour. « Reviens ici !» a-t-elle dit. « Reviens ici tout de suite !»« Tu peux pas rester là-bas. Tu n'es plus là-bas. C'est fini !» Le sourire de Jeanine s'est effacé. Elle a porté la main à sa joue.
« Pourquoi m'avez-vous frappée ? » a-t-elle dit. « Ce n'était pas bon. Je peux vous en apporter un autre. Vous n'aviez pas besoin de me frapper.
Est-ce que tu ne sais pas ce qu'ils vont te faire ?» a dit Moira. Elle parlait d'une voix basse, mais dure, intense. « Regarde-moi ! Je m'appelle Moira et nous sommes au Centre Rouge. Regarde-moi !» Les yeux de Jeanine ont commencé à accommoder. Elle a dit « Moira ?
Je connais pas de Moira. »
« Ils ne t'enverront pas à l'infirmerie, alors ne te fais pas d'illusions, » a dit Moira. « Ils vont pas perdre leur temps à essayer de te guérir. Ils prendront même pas la peine de t'expédier aux colonies. Si tu pars un peu trop loin, ils t'enverront juste au laboratoire de chimie et ils te fusilleront. » Puis, ils te brûleront avec les ordures, comme une antifemme, alors n'y pense plus.
Je veux rentrer à la maison. « Je veux rentrer à la maison »,
a dit Jeannine. Elle s'est mise à pleurer.
« Bon Dieu de bon Dieu !» a dit Moira. « Ça suffit ! Elle sera là dans une minute, je te le garantis. Alors mets tes foutus vêtements et ferme-la !»
Jeannine continuait à pleurnicher, mais elle s'est quand même levée et a commencé à s'habiller.
« Si jamais elle recommence et que je suis pas là, m'a dit Moira, il faut que tu la gifles, comme j'ai fait. On ne peut pas la laisser glisser par-dessus bord. C'est contagieux, ce truc-là. »
Elle devait déjà, à ce moment-là, être en train d'imaginer comment elle allait sortir d'ici.